48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine.
Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce Mag de 48 FM, le 60e Mag, Fred, tu imagines ?
C'est impressionnant, 60e.
Eh oui, bonjour Fred.
Bonjour Ludo, bonjour à tout le monde et joyeux anniversaire pour ce 60e.
Eh oui, on fête les 60 bougies de ce Mag avec toujours trois invités qui viennent parler de trois sujets d'actualité, trois sujets différents, vous en avez l'habitude. Tout d'abord Marie Huguet qui est là, qui elle est une habituée, qui va nous présenter Contes et Rencontres, la 23e édition. Bonjour Marie.
Bonjour.
Également au programme, le docteur Jean-Paul Bonhomme pour parler de bien vieillir. Donc on vous expliquera ce que c'est dans ce magazine et également du schéma départemental de santé. Bonjour.
Effectivement, à partir de 60 ans, on commence à bien vieillir.
Exactement, c'est ça. Et il n'a pas 60 ans, il en a un peu moins. C'est Yannick Soulier du Pôle emploi demande qui va nous présenter sur la route du cuir en Haute-Loire. Bonjour.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, on commence par de la culture avec la 23e édition de Contes et Rencontres. Marie, une manifestation qui marche toujours autant en Lozère.
Tout à fait. Donc 23e édition qui va démarrer ce vendredi 14 février avec Richard Boringer à la Ginette Verte de Florac. Je me dis tout de suite, tout est complet depuis le 20 janvier. Et on termine cette 23e édition sur Chanac le samedi 1er mars. Durant cette quinzaine, il y a 45 représentations, du tout public, spectacles familiaux, des stages, puisque cette année, on accueille trois stages, stage sur le mime, stage conte, donc conte, stage de conte pour débutants et stage de conte pour ceux qui ont un peu de pratique. Une journée professionnelle qui, pareil, cette année, on a la chance d'avoir déjà une trentaine de programmateurs qui seront présents le vendredi 21 février sur Marvejols. Des salons du livre, spectacles familiaux, je l'ai dit. Enfin, voilà, un programme toujours aussi riche. Si, et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est une nouveauté cette année avec des contes dans les entrailles de la terre. On devait faire cette balade le dimanche 23 février à la grotte de Nabrigas, mais pour quelques raisons environnementales, on est obligé de le faire à la grotte de Dargilan,
qui
est aussi une très belle grotte. Donc je pense que voilà, on ne perdra rien à la beauté de l'après-midi.
C'était complet sur la première grotte, du coup de changer, il reste des places, on peut agrandir
non,
à la jauge
non,
ou pas.
Non, on avait limité à 50 personnes pour la grotte de Dargilan, et là on est à 80 personnes. Mais je pense que si on veut garder une belle convivialité, voilà, on reste sur ce nombre de 80 personnes et c'est déjà complet là aussi.
Tout est complet.
Cette année, c'est vraiment... je pense qu'en Lozère, il faut peut-être du temps pour que les choses soient bien connues. Mais vraiment, on a vraiment beaucoup, beaucoup de chance puisque les stages sont complets, la soirée d'ouverture, la grotte, la journée professionnelle. On accueille aussi une formation conte au niveau national qui est mise en place par notre Confédération nationale des foyers ruraux. Et il y a 25 programmateurs qui viennent de toute la France qui participeront à la journée professionnelle. Donc pour les 10 artistes qui viennent présenter un extrait de leur spectacle, voilà, ils auront cette année énormément de chance puisqu'ils seront vus par des gens qui viennent de tous les coins
C'est tous les deux ans cette journée.
On l'a fait tous les ans en partenariat avec le Théâtre de la Mauvaise Tête à Marvejols. Voilà, et cette année, c'est la 9e édition.
Bon, il va falloir faire cette émission en décembre pour que les gens aient des places, en fait. On s'y prend trop tard. Il reste quand même des spectacles voir.
Oui, pendant la quinzaine, donc, on accueille 14 artistes qui vont aller de village en village sur la quinzaine. Et puis là, il n'y a aucun... pas de souci. Les gens, pour les spectacles qui se passent dans les villages, les personnes n'ont pas l'habitude de réserver. Voilà, donc s'ils veulent réserver, qu'ils n'hésitent pas à appeler la Fédération des foyers ruraux et on leur donnera les coordonnées des responsables de foyers ruraux qui accueillent.
Voilà, 14 compagnies qui viennent, ou artistes, un peu partout en Lozère. Il n'y a que la Margeride où il y a encore un petit manque. Docteur Bonhomme, va falloir y remédier.
Effectivement, je notais régulièrement que je me désole un petit peu qu'on n'ait pas trop de manifestations sur la Margeride, mais il en dépend sans doute des initiatives locales, je le sais. Et donc c'est un petit peu dommageable, effectivement, comme vous le mentionnez. Oui.
D'accord.
Pour l'année prochaine.
Pour l'année prochaine, mais il y a quand même des manifestations en Nord-Lozère, on voit sur l'Est lozérien. C'est un peu partout, ça c'est une volonté des foyers ruraux de proposer du spectacle, d'aller vers les gens.
Alors on propose un catalogue à nos responsables de foyers ruraux. Donc aujourd'hui on a 66 foyers ruraux sur l'ensemble du département. C'est vrai que cette Margeride, on est très peu présent, mais bon, il faut y croire, puisque cette année, il y a un foyer rural qui s'est mis en place sur Saint-Symphorien. Voilà, donc j'espère que peut-être dans les quelques années qui arrivent, il y en aura d'autres. Voilà, on travaille avec... Ce qui est important, c'est que la fédération ne pourrait rien faire seule s'il n'y avait pas tous ces bénévoles qui sont dans les villages. On a 42 foyers ruraux qui sont partenaires de cette opération. Donc une centaine de bénévoles qui accueillent les artistes, qui préparent les salles, qui font la communication. Et puis il y a d'autres partenaires comme le Théâtre à Mauvaise Tête, la Genette Verte. Bon, je ne vais pas les citer, c'est sur la plaquette.
Peut-être citer les partenaires financiers qui vous aident.
Et par contre, ce festival ne pourrait avoir lieu sans le soutien du Conseil général de la Lozère, de la région Languedoc-Roussillon et du Parc national des Cévennes. Et puis... De plein de sponsors, voilà, qui sont nombreux et heureusement, on les remercie.
Ils n'ont pas ça en Haute-Loire.
Non.
ils ont dû travailler dans les maroquineries, mais on en parlera tout à l'heure. Ces artistes, cette année, ils ont quelque chose de spécifique. Ils viennent d'un endroit précis, comme ça a pu être le cas avec des Canadiens ou des Belges, ou ça vient un peu de partout?
Alors, ils viennent de partout. Ce sont des artistes que j'ai découverts dans les festivals ou les journées professionnelles qui sont aussi organisées par d'autres structures. Voilà, donc c'est vraiment toute parole. C'est aussi bien des récits de vie que des contes traditionnels, que des contes contemporains. Et cette année, on accueille même un mime parleur, voilà, que j'ai découvert à Avignon il y a 2 ans, voilà, qui présente un très beau spectacle sur... monologue avec une valise, voilà, et qui va faire un stage le lundi. Et là aussi, il y a eu une grosse, grosse demande, puisque 20 participants, et on aurait pu faire 2 stages, puisqu'ils auraient été complets. Voilà.
Fred, tu ne peux pas prendre un créneau de stage de mime?
Et ce serait pas mal. Bah, c'est ce que j'essaye de faire depuis tout à l'heure. Tu as vu que on ne m'entend pas à la radio et je mime.
Tu mimes.
J'espère que les auditeurs
apprécient
mon mime.
Ouais.
Je n'arrive pas à en sortir. Mais je suis tellement à l'écoute de cette programmation. En général, on pose toujours la question piège. C'est que vous n'aimez pas répondre, mais qu'on vous pose quand même à chaque fois. Le coup de cœur de cette édition... Il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Non, ce sont tous des coups de cœur.
C'est trop facile, ça.
Bon, y a un nom.
Je peux peut-être ajouter quelque chose qui est important. C'est on fait revenir... On fait venir. Il y a Frédéric Nau qui a été en résidence il y a 2 ans, donc qui a travaillé avec des résidents du foyer de Pailleret. Et il revient cette année, donc 2 ans après, comme on fait à chaque résidence d'artiste. On les invite 2 ans après pour nous présenter un spectacle fini. Et cette année, les résidents, donc il y a 5 résidents du foyer de Pailleret qui vont donner qui vont participer à la première partie de la soirée. Et ils étaient la semaine dernière au Théâtre du Rond à Toulouse pour présenter leur spectacle. Donc... je suis très fière que le festival Contes et Rencontres ait permis à des résidents de s'ouvrir au conte et de travailler sur le conte et de présenter un spectacle. Et puis j'espère qu'on les a invités à la journée professionnelle. J'espère que les programmateurs les verront, puisqu'ils vont donner leur premier spectacle, enfin en Lozère, jeudi 20 février à Grèzes. Donc, tous les programmateurs seront là, ils pourront les voir et j'espère qu'ils pourront aller compter aussi ailleurs qu'en Lozère.
Ce sont combien de programmateurs qui viennent durant cette journée?
Et là, cette année, on a rempli la salle du Théâtre de la Mauvaise Tête. Il y a 70 places, mais ça doit faire une bonne... On est à 35 programmateurs là, voilà.
c'est un moment incontournable en fait pour ces programmateurs, parce que Contes et Rencontres, il n'y a pas énormément en France de festivals de contes. Vous êtes peut-être même victime de votre succès certaines années à devoir refuser des artistes.
Pour la journée professionnelle, c'est certain qu'on a une liste d'attente très longue pour 2015, 2016. Voilà, déjà on pourrait organiser deux autres journées professionnelles, c'est plein. Mais on n'est pas les seuls à organiser des journées professionnelles. Hein. Je veux dire que nous, en Lozère, on n'a rien inventé. Hein. On est parti sur quelque chose que j'avais vu à Dinan il y a une dizaine d'années. Et là, ça s'est développé en France. Et pour des programmateurs comme nous, des petites structures, c'est important de voir la même journée une dizaine d'artistes en voyant un extrait d'une vingtaine de minutes. On voit très vite si le spectacle correspond à notre territoire, en fait, à ce que notre public attend. Voilà.
Il y a beaucoup de manifestations comme ça, de contes en France, vous le savez ou pas? Vous êtes en lien avec d'autres festivals qui organiseraient la même chose que vous?
Au niveau des foyers ruraux, il y a quatre fédérations comme nous, le Nord-Pas-de-Calais, la Sarthe, la Champagne-Ardenne et la Lozère, hein, où on organise un festival qui dure, qui a quelques années. Et ensuite, qui organise aussi une journée professionnelle. Et puis sinon, il y a Vassivière qui fait ça au mois d'août, où je participe tous les ans à ce festival pour profiter de la journée pro. Voilà.
D'accord. C'est important à l'heure actuelle, où on discute beaucoup par SMS, par message court, par mail, etc., ce temps de parole, de donner le temps de parler, d'écouter.
Ouais, moi, je pense que c'est très important et les gens sont très demandeurs. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on a un public qui rajeunit. Voilà, donc il y a une dizaine d'années, on avait l'impression que le conte, c'était un pour les enfants, et puis c'était un public plus âgé qui participait.
Voilà, au bord
et
du
aujourd'hui, voilà. Et aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes qui participent. Et puis, on est très sollicité. C'est vrai qu'on aurait plus de soutien de la DRAC, par exemple. On pourrait avoir un travail plus en profondeur avec les écoles, les lycées, les collèges. Voilà, chose qu'on faisait avant et que, bon, vu les diminutions de crédit, on peut malheureusement plus répondre à toutes les demandes du jeune public.
Donc, Madame la Ministre, si vous nous écoutez, et on sait que vous nous écoutez régulièrement, Contes et Rencontres sont prêts pour vous rencontrer et effectivement développer le projet avec les écoles.
Et oui, en temps de difficultés financières, c'est souvent la culture et le sport qui payent les pots cassés en premier. Il y a toujours cet esprit de partage avec le public présent à la fin du spectacle, de venir discuter avec l'artiste.
Oui, pour nous, ce qui se passe dans les foyers ruraux, c'est important. C'est le moment de convivialité qui est très, très riche. On ne se quitte pas sans le verre de l'amitié et sans le partage de pâtisseries, souvent maison, puisque ce sont les responsables de foyers ruraux. Voilà, qui prépare le vin chaud, l'infusion, la marquisette ou les gâteaux maison.
Yannick Soulier, vous avez eu l'occasion d'aller à un spectacle de Contes et Rencontres une année ou pas du tout?
Alors, pas encore, mais je compte bien y aller. Et par contre, j'ai des amis qui sont conteurs, donc c'est quelque chose qui m'attire, mais voilà. Pas trop le temps, mais cette année, je vais essayer. Bah, j'avais essayé pour M. Bourringer, mais un petit peu trop tardivement.
Et oui, c'est quand même une tête d'affiche. Ouais. C'est un nom qui tire vers le haut. Il fallait s'y prendre plus tôt. Jean-Paul Bonhomme, pareil, vous avez eu l'occasion de participer à des contes?
Je dois avouer que non, effectivement, de par la non-présence sur la Margerie des actions. Mais en fait, ce n'est pas suffisant en soi. Nous avons chacun nos programmes culturels aussi au niveau des cantons, même s'ils n'ont pas la même audience que quand on les rencontre. Et donc, on a beaucoup à faire. Donc, peut-être c'est un faux prétexte, mais je sais que c'est des spectacles de qualité. On reçoit, bien sûr, chaque année régulièrement la promotion de ce programme. Et c'est très intéressant, effectivement. Et puis, ça donne de la vie quand même aux territoires ruraux. Et ça, c'est très important que tout un chacun, dans la ruralité, ait droit à l'accès à la culture et au spectacle. C'est quelque chose de formidable.
C'est vrai qu'il y a souvent du travail qui est fait en collaboration avec l'hôpital de Saint-Alban, avec des artistes. On pourrait imaginer une année des conteurs qui viennent travailler de Contes et Rencontres. Le programme, on vous le donnera bien sûr sur les ondes de la radio dans les informations locales. Donc Richard Bohringer, eh bien, c'est plein, on ne peut pas y aller, c'est la Saint-Valentin, donc il faudra aller au resto avec, avec sa compagne, c'est pas mal non plus. Monologue avec valise, ce sera le second spectacle, Marie.
Voilà, qui va débuter samedi sur Sainte-Croix-Vallée-Française, le dimanche après-midi sur Saint-Symphorien, ensuite
à Vialas, le 18.
Le mardi soir et le mercredi soir au Bruel d'Esclanède.
Voilà, on va remonter un peu. D'accord, la danse des mythes, Rémi Boiron, ça va suivre ça. Donc là, on part sur l'Aubrac à Nasbinel, Bagnoles-les-Bains, on redescend un peu, et Saint-Germain-de-Calberte, etc. Hein, beaucoup de d'artistes qui vont venir pendant cette quinzaine.
Qui, du coup, de fait la tournée, découvrent aussi la Lozère. Donc ils sont aussi... des futurs nouveaux arrivants. On va espérer les faire rester en Lozère.
Bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est qu'encore hier, on a un couple qui vient de Bourg-en-Bresse, qui a pris une semaine, qui a loué un gîte pour une semaine en Lozère pour participer à Contes et Rencontres. Et c'est vrai qu'on en a de plus en plus de personnes qui connaissent ce festival, qui en parlent autour d'eux. Voilà, je pense que des gens viennent de loin pour découvrir le festival Contes et Rencontres, mais surtout découvrir la Lozère.
C'est ça, et donc du coup aussi faire fonctionner le tourisme.
Tout à fait.
On sait qu'effectivement tout ça est lié et donne du sens à un territoire.
Ouais. On oublie souvent que la culture apporte beaucoup à l'économie du pays, et je pense que Contes et Rencontres en est un exemple. Hein. C'est vrai qu'on laisse pas mal d'argent dans les restaurants, les hôtels, les gîtes, l'accueil des artistes, mais aussi l'accueil de toutes les personnes qui viennent pour ce festival.
Voilà, et par le biais de manifestations comme celle-ci, comme le 48e de rue, comme d'autres manifestations, on n'a rien à envier à d'autres grandes villes.
Le festivalier.
Et le festivalier de Langogne.
En l'occurrence, c'est sur Langogne.
Oui, voilà, exactement, avec qui on est partenaire 48FM. Très bien, Marie Huguet, merci beaucoup.
Merci.
Bien sûr, on vous donnera, comme je l'ai dit, toutes les informations tout au long de cette quinzaine.
Merci beaucoup.
Bon festival.
Allez, tété comme feuillets au vent, et après on revient pour le mag.
Vainement, te compte tu tries, inventorie tes printemps, évanoui, oublier les serments, envolés comme feuillets au vent, lentement te reviennent à l'esprit. Et non avènement en remise et la langue et la morgue d'antan envolé comme feuillets au vent et envolé comme feuillets au vent. Yeah.
48 FM Le Mag.
Allez, nous voilà revenus dans le MAC de 48 FM pour cette seconde partie avec le docteur Jean-Paul Bonhomme qui est au Conseil Général de la Lozère, qui s'occupe de la santé. Ça tombe bien parce qu'on va parler
l'action
de, santé,
sociale,
de l'action sociale.
La santé, c'est la compétence des services de l'État.
Voilà, mais c'est votre compétence.
Excusez-le,
aussi.
Professionnellement, oui, bien évidemment.
Professionnellement. Voilà. Oui, pardon, mais je vais te laisser parler, toi qui maîtrises bien le sujet de...
C'est bien
ce sujet-là, ce sujet qui va parler du guide du bien vieillir qui vient de sortir il y a quelques semaines en Lozère.
Tout récemment, oui, effectivement.
Qu'est-ce que c'est que ce guide du bien vieillir ?
Mais c'est avant tout un document qui nous tenait à cœur, les élus, de par la qualité de nos établissements et de nos services au niveau du département, et plus particulièrement ciblé sur les maisons de retraite, qu'on appelle, c'est-à-dire des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes. Nous avons de nombreux établissements, il y en a une trentaine sur le plan départemental. Établissements de petite capacité et de proximité. Ça aussi été, c'est un choix aussi des élus, d'avoir des établissements au niveau des bassins de vie, même au niveau des chefs-lieux de canton, pratiquement, pour, de façon à ce que les résidents aient une vie de convivialité plus particulièrement développée. Petite capacité qui permet d'avoir aussi donc, une proximité humaine très forte et dans laquelle les personnes se retrouvent vraiment avec leur identité propre, pas simplement avec leur numéro de chambre. Donc... Et on tenait à valoriser ces établissements, d'autant plus que le département a fait des efforts conséquents ces dernières années dans les programmes d'investissement, puisqu'on subventionne à hauteur de 40% du montant hors taxe des travaux sur un plafond de 110 000 euros par chambre, les travaux de réhabilitation et de construction de l'établissement. Donc un effort nationalement inégalé, puisque de nombreux départements ont fait le choix de ne pas participer dans la rénovation des établissements et de leur construction. D'autres départements participent de façon moins élevée, des taux de l'ordre de 10%, de 20%. Nous sommes à 40%, ce qui est un effort considérable, ce qui permet aussi, bien sûr, d'atténuer le prix de journée dans ces maisons de retraite. C'était le premier choix de valoriser cet outil de travail. Ensuite, nous avions quelques soucis, il faut le reconnaître, de taux d'occupation dans nos maisons de retraite. Et donc, il faut absolument qu'on arrive à compléter de façon optimale le taux d'occupation dans les maisons de retraite. 100%, c'est peut-être trop, mais enfin, il faut qu'on ait des taux d'occupation entre 95 et 100%. Étant donné que, je le disais tout à l'heure, ce sont des structures de petite capacité, évidemment, si le taux d'occupation est insatisfaisant, ça génère des difficultés de fonctionnement et de budget pour ces établissements.
Quels sont ces soucis ? Pourquoi ces taux d'occupation étaient plus faibles que prévu ?
Ben, taux d'occupation et différentes explications. Il y a d'abord des explications qui sont tout à fait logiques, notamment lorsque les établissements font des travaux de restructuration, ils ne peuvent pas avoir 100% d'occupation. Mais par contre, il y a des structures qui sont un petit peu excentrées, qui connaissent des difficultés parce que le recrutement de la population localement est insuffisant. Et dans le même temps, on observe que il y a des familles qui sont en difficulté pour trouver des places d'accueil dans ces établissements. Donc il faut absolument qu'on fonctionne en réseau, qu'on fonctionne en mutualisation et qu'on explique aux personnes âgées. Moi, ça m'est arrivé personnellement, dire qu'il n'y a pas de place à la maison de retraite de Saint-Alban, mais vous partez dans une structure d'hébergement un petit peu excentrée de Saint-Alban, et dès qu'une place se libère, vous revenez sur le site Saint-Albanais. Donc effectivement, c'est une déclaration davantage entendable par les familles et par les résidents. Et d'ailleurs, je dois reconnaître que bien souvent, lorsqu'ils regagnent les maisons de retraite en dehors de leur lieu de vie, souvent ils y restent et ils ne reviennent pas sur la maison de retraite qu'ils ont initialement ciblée. Donc fonctionner en réseau, fonctionner en complémentarité, c'est notre souci, de façon à pouvoir avoir un taux d'occupation optimisé.
Et donc apparemment, il y avait un problème de communication également, vu que vous sortez cette plaquette qui, en fait, cette plaquette, c'est une description de chaque maison de retraite.
Voilà, une description sommaire de l'ensemble des maisons de retraite, mais enfin proposant pour certaines des prestations un petit peu différentes et variées. Et puis on a effectivement cette visualisation pour la première fois de nos établissements pour personnes âgées.
C'est une communication lozérienne, lozéro-lozérienne, mais c'est aussi une communication à l'extérieur du territoire ?
C'est une communication, effectivement, qu'il va falloir amplifier. J'allais sourire parce que lorsque le département a acheté, voici quelques années déjà, la maison de la Lozère à Paris, j'avais dit qu'il fallait en faire une vitrine pour présenter nos établissements aux personnes âgées et aux personnes handicapées. J'avais fait rire l'ensemble de mes collègues, je dois dire, et la proposition n'avait pas été retenue. Maintenant, le positionnement est différent et on s'aperçoit qu'effectivement, ça sera aussi peut-être un moyen de communiquer avec la maison de la Lozère. Mais au-delà, bien sûr, on va retrouver sur Internet et sur le site du département cette brochure, qui est une des premières étapes qui va être complété et qui est déjà complété par une plateforme de gestion des places en établissement aux personnes âgées. Il n'est pas tolérable qu'on ait des lits de libres, alors qu'encore une fois, il y a des besoins. Il faut absolument qu'on ait connaissance au jour le jour du nombre de places libres par établissement, de façon à pouvoir enseigner l'usager et leur famille.
Donc le Conseil général va piloter cette plateforme de places, effectivement, de gestion de places, de sorte à ce qu'on puisse savoir exactement les places disponibles et effectivement travailler en réseau, comme vous l'avez expliqué, pour pouvoir pourvoir au mieux et au plus juste sur tous les territoires.
Bien sûr, oui, ça va être le service autonomie, plus particulièrement, qui va être chargé de cette gestion des places. Et au jour d'aujourd'hui, déjà, en coordination, bien sûr, avec l'ensemble des établissements, avec notamment l'AFNADEPA, la Fédération départementale des directeurs d'établissements, qui, sous cette association, regroupe la quasi-totalité des directeurs d'établissements, donc aussi contribue largement à alimenter, bien sûr, cette ressource. C'est indispensable, d'ailleurs, et maintenant ils ont bien compris les enjeux qu'il y avait derrière, et je dois dire que les choses sont grandement améliorées depuis quelques mois.
C'est ça, c'est que du coup on imagine un partenariat étroit entre le Conseil général et ses établissements, qui sont pour je crois la quasi-totalité public ou associatif.
Donc effectivement, vous... en Lozère il n'y a pas de maison de retraite à but lucratif. L'ensemble des maisons de retraite sont soit des maisons de retraite gérées par des centres communaux d'action sociale ou sous la forme associative sans but lucratif.
Est-ce que ça facilite le travail de réseau, justement ? Est-ce que c'est quelque chose sur lequel vous allez pouvoir vous appuyer ou est-ce que c'est plus compliqué ?
Non, je ne crois pas que ça peut avoir qu'un élément facilitateur. Si certains, s'il y avait des maisons de retraite à but lucratif, ça générerait quand même quelques difficultés peut-être de communication, tandis que là, l'ensemble des directeurs ont mutualisé déjà un certain nombre de fonctions. Là aussi, c'est important. Tant qu'on a des maisons de retraite de petite capacité, il y a quelques postes de travail qui ne peuvent pas être entendables à temps complet pour certains emplois. Je pense à des tâches d'ergothérapie, des animations diverses et variées. Donc l'intérêt, c'est aussi de pouvoir mutualiser ces tâches, les partager entre différents établissements.
Effectivement, au-delà des résidents, il y a un enjeu de professionnalisation de ces établissements, vous l'avez dit,
bien sûr.
Expliqué. Et ce guide-là, on voit bien que c'est le haut de l'iceberg, finalement, les belles photos de ces établissements, et que derrière, c'est tout ce travail, c'est la plateforme de gestion des places, c'est la professionnalisation, effectivement. On imagine un travail effectivement d'envergure sur tout ce secteur.
Je crois qu'il fallait effectivement un petit peu, je dis une évolution, je parlerai plutôt de révolution dans l'établissement pour personnes âgées, puisque aujourd'hui les personnes âgées qui rentrent en établissement ont quand même des besoins différents de ce qui se passait il y a quelques années. Hein. Ils sont un petit peu plus exigeants en matière d'animation, en matière de produits qu'on peut leur attribuer, même éventuellement d'accès à Internet. Donc il faut effectivement que nos établissements évoluent. Ils ont évolué. Maintenant, il va falloir un petit peu entretenir au quotidien et régulièrement ce niveau de performance. Mais nous avons une longueur d'avance au niveau départemental et c'est souvent très apprécié. Les gens qui viennent d'extérieur sont surpris par deux choses. D'une part, par la proximité humaine surtout. La proximité humaine qu'on y trouve, où effectivement c'est une vie familiale dans la quasi-totalité de ces établissements. Et puis d'autre part, effectivement, par la prise en charge de qualité qu'on leur propose.
Il y a une concurrence entre départements pour ces maisons de retraite ?
Pour les maisons de retraite, c'est beaucoup moins vrai que dans le monde du handicap. Hein. Les maisons de retraite, la concurrence n'y est pas. Non, on reçoit peu de personnes venant de l'extérieur. C'est peut-être aussi quelque chose justement à développer dans l'accueil de nouvelles populations, parce que ça ne doit pas concerner que les personnes en période active de leur vie, mais aussi les personnes retraitées, les personnes âgées dépendantes. Donc pourquoi pas accueillir aussi ces personnes âgées qui trouveront encore une fois une qualité de prise en charge et puis un prix de journée qui quand même est beaucoup moins élevé que ce qu'on peut trouver en milieu urbain.
Et bien sûr, on n'avait pas encore parlé du prix, mais c'est un élément qui est important. Qu'on ne trouvera pas directement sur le guide, mais sur lequel on pourra avoir des informations, je suppose.
Oui,
bah,
globalement, on est dans des prix entre de l'ordre de 55 euros par jour, dans lequel il faut déduire ou rajouter, cela dépend un petit peu des établissements, le forfait dépendance qui doit être payé pour chaque personne, quel que soit son état de dépendance. Mais donc, on est dans des prix, j'allais dire, encore attractifs, surtout compte tenu de la qualité proposée dans les prestations.
Bien sûr. Alors la presse nous a tenté de nous faire peur, pas plus tard qu'hier, en disant qu'en 2040, on n'aurait pas de place dans nos établissements. Alors on n'en est pas là, et puis parce qu'effectivement, nous, on est plutôt à essayer de, comme vous le disiez, à faire que nos établissements soient le plus remplis possible. Vous êtes inquiet de ces perspectives à l'horizon 2040, je crois ?
Oui, j'ai trouvé cette analyse assez fausse. D'une part, nous avons au jour d'aujourd'hui 1700 places en maison de retraite en Lozère et pas 700 et quelques comme il était annoncé dans ce document. Donc ça fait quand même un écart très, très conséquent. Et puis les projections sur 2040 m'inquiètent beaucoup moins. Par contre, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant pour lequel j'ai eu beaucoup de difficultés à faire passer le message au niveau du département. Maintenant, c'est acquis. C'est aussi d'avoir d'autres propositions que des maisons de retraite. Je le disais souvent, je suis parti de ce constat parce que, connaissant plus particulièrement, bien sûr, ce monde médico-social, j'avais observé qu'on avait un certain nombre de résidents de façon conséquente qui ne sont pas dépendants et qui se trouvent en maison de retraite. Effectivement, la problématique en milieu rural se trouve lorsque le conjoint décède, c'est souvent les hommes qui partent le premier, et puis la personne âgée peut rester seule à la campagne alors que les enfants sont partis travailler dans la meilleure des cas à Mende, mais bien souvent à Montpellier ou à Paris. Non plus les moyens de locomotion pour aller faire leur commission. Les réseaux de commerce ambulant aussi se raréfient. Donc, bien souvent, la grand-mère est obligée de regagner la maison de retraite pour des convenances sociales. Or, je le dis souvent, on ne va pas à l'hôpital lorsqu'on n'est pas malade. Et donc, je ne vois pas pourquoi on irait dans une maison de retraite médicalisée lorsqu'on n'a pas besoin de médicalisation importante. Donc, il y a la place pour l'accueil social.
Donc du maintien à domicile ?
Du maintien à domicile avant toute chose, mais là on a des associations qui savent bien faire. On a trois associations au niveau départemental avec l'ALAD, la DMR et Présence Rurale qui permettent effectivement à de nombreuses personnes de pouvoir rester à domicile. Mais quelquefois la solitude est pesante en milieu rural et notamment en période hivernale et ce n'est pas toujours la solution adéquate. Par contre, proposer des lieux d'accueil au niveau des chefs-lieux de canton, essentiellement à proximité des établissements pour personnes âgées, de façon à pouvoir leur apporter certaines prestations, leur garantir aussi la sécurité. C'est une thématique qu'il faut développer, pas de façon intense, mais raccrocher aux maisons de retraite, avoir quelques appartements indépendants dans lesquels la personne âgée est chez elle, dans lesquels elle se sent sécurisée, parce que si elle a un problème, elle sait qu'elle peut faire appel le jour ou la nuit et que quelqu'un viendra à sa rencontre, savoir qu'elle pourra bénéficier des repas, qu'elle pourra bénéficier du ménage, qu'elle pourra bénéficier de la lingerie. C'est quelque chose de très important. C'est un concept qu'il faut développer. Donc j'ai été un petit peu peut-être précurseur au niveau départemental et même ça ne se faisait pas trop ailleurs. Et maintenant, ma position se trouve confortée par le fait que la CARSAT, la Caisse autonome de retraite des salariés travaillés, développe ce genre de concept et conçoit des aides de subventions conséquentes pour faire des maisons pour retraités autonomes. Voilà, des maisons sécurisées, dans des lieux regroupés dans lesquels on sent davantage chez soi. Bien souvent, en milieu rural, ensuite, la maison devient trop grande. Les enfants sont partis avec des contraintes d'entretien en coût. Et puis même des difficultés pour pouvoir faire le jardin, pour pouvoir faire les travaux qui s'imposent dans toute maison. Et les personnes qui se trouvent dans telle situation souhaitent un petit peu peut-être louer ou vendre leur maison et ensuite regagner un lieu de vie dans lequel elles sont sécurisées, dans lequel il y a un logement beaucoup plus modeste qui suffit largement à leur bonheur.
Un intermédiaire entre le domicile et la maison de retraite.
C'est effectivement la solution tampon entre la maison de retraite et le domicile.
Très bien. Donc un futur chantier pour vous, docteur Bonhomme ?
Un futur chantier, le chantier est déjà largement entamé parce qu'il m'a fallu déjà convaincre. Et effectivement, tout le monde n'avait pas la même appréciation. Je le comprends et je l'analyse en soi. Mais maintenant, il y a la conviction. Mais par contre, il faudrait être prudent. Il faut d'une part que ça ne se transforme pas en établissement. Oui. Il faut que ce soit pour des personnes autonomes. Et l'intérêt est double. D'une part, la personne se retrouve à proximité d'une maison de retraite pour bénéficier des prestations. Elle sait que si elle perd son autonomie, elle va pouvoir être prioritaire si elle perd l'autonomie pour entrer en maison de retraite. Et dans le même temps, la maison de retraite a, entre guillemets, aussi une liste d'attente potentielle avec ses structures sociales. Donc je crois que l'intérêt est avant tout pour tout le monde, mais l'intérêt est avant tout, bien sûr, pour la personne âgée qui... Il faut qu'on réponde à un besoin, et ce besoin, aujourd'hui, existe. On a vu dans certains établissements jusqu'à 20 à 30% de personnes âgées qui sont dans la maison de retraite et qui sont en groupe iso-ressources 5-6, c'est-à-dire qui sont autonomes et qui n'ont pas besoin d'un accompagnement médicalisé. Voilà, donc c'est pour cela que je suis convaincu et que j'étais toujours convaincu et que je suis convaincu de travailler sur ce volet.
Très bien, merci beaucoup pour ces précisions.
Peut-être connaître la part du budget du Conseil général qui est consacrée à l'action sociale.
Ah, bien sûr, c'est la part dominante. C'est 60% du budget de fonctionnement, donc c'est quelque chose de conséquent. De même que parmi les 10 dernières années, nous avons consacré 27 millions d'euros à l'équivalent pour faire 27 millions d'euros de travaux dans ces maisons de retraite. Donc effectivement, une économie très importante dans le département. On sait très bien qu'au niveau médico-social, c'est quand même l'acteur économique numéro un. Ça, souvent, je le dis auprès de mes collègues, c'est bien beau d'attirer de nouvelles entreprises, de nouvelles populations, mais il va falloir garder l'existant. Je crois que dans le domaine des personnes âgées, ça va être acquis. Dans le domaine des personnes handicapées, là aussi, il faut qu'on évolue. Et là aussi, il y a 10 ans, j'avais réuni les directeurs et les présidents de ces établissements qui n'avaient pas tout à fait compris le message. Mais les départements de France s'équipent maintenant en structure d'accueil pour les personnes handicapées parce qu'ils payent. Lorsqu'on reçoit des handicapés venant à Lozère, venant de la région parisienne, c'est la région parisienne qui paye pour le prix de journée. Et dans le même temps, tous les départements sont confrontés à des situations, à des difficultés d'emploi. Donc c'est aussi, en créant des structures, ça permet de réduire aussi effectivement le chômage dans ces départements. Donc nous avons là aussi une longueur d'avance, des établissements de grande capacité, des établissements qui ont un savoir-faire conséquent, mais il faut évoluer dans les prestations. Et mon cheminement actuel, c'est d'amener aussi à l'orientation des établissements vers l'accueil de malades psychiatriques. Jusqu'à présent, on savait très bien faire pour les malades mentaux, pour les déficiences mentales, pour les trisomiques. Mais maintenant, le besoin se retrouve vraiment dans le secteur psychiatrique. Bien sûr, je peux en parler peut-être un petit peu plus que quiconque, puisque l'hôpital de Saint-Alban, que j'ai connu lorsque j'étais interne, était encore à 500 malades. Au jour d'aujourd'hui, il y en a 80. Donc c'est pas qu'il y a moins de malades psychiatriques. Je crois que malheureusement, il y en a toujours beaucoup, et peut-être plus que d'avant. Et des pathologies de plus en plus complexes, notamment avec les problèmes de toxicomanie qui souvent génèrent des difficultés dans ces maladies psychiatriques. Et donc, il y a des personnes qui sont en attente de lieux de vie. Et nos établissements médico-sociaux, actuellement, ne sont pas encore assez spécialisés pour accueillir ces malades qui demandent, bien sûr, un accompagnement différent des autres pathologies. Donc, c'est un autre chantier auquel je tiens. Mais je sais déjà que des responsables d'associations lozériennes importante et bien connue, ont perçu le message et ont perçu effectivement la nécessité de s'orienter vers ce besoin.
Bien sûr, et là on touche aussi à la question du professionnalisme, encore une fois, et tout le travail et, comme vous dites, les enjeux économiques qui sont derrière ce secteur. Je crois que quasiment 30% de l'économie lozérienne dépend du secteur médico-social.
Oui.
Donc c'est certainement pas un secteur qu'il faut oublier, et vous avez une charge importante de le rendre effectivement toujours innovant pour pouvoir répondre aux besoins et effectivement aux enjeux qui sont derrière.
Bien sûr. Notre tout premier, c'est effectivement de convaincre les partenaires. Effectivement, souvent à Montpellier, je crois qu'on ne perçoit pas assez au niveau de l'Agence régionale de santé le travail de qualité qui se fait dans ces établissements lozériens. C'est une particularité. Bon, malheureusement, on est davantage dans des ratios économiques que dans des ratios qualitatifs, mais c'est fort dommageable.
Au Pôle emploi de membres de Lozère, c'est beaucoup de postes qui sont à pourvoir dans l'action sociale, notamment dans la santé et le handicap.
Alors concrètement, oui, hein, le secteur de la santé et de l'handicap représente pour nous une grosse charge de travail, si ce n'est dans les gestions des offres. Après, on travaille bien entendu avec, je dirais, les entités les plus marquantes du département, puisqu'on a récemment signé un contrat de service qualité avec une des grosses entités départementales, pour ne pas la citer, donc où on travaille sur du sourcing, sur de la gestion prévisionnelle de compétences. Et tout à l'heure, Dr Boudon l'a dit, il y a aussi un effet de mutualisation, de mutualité et de mutualisation sur les ressources humaines. Et on travaille aussi avec ces structures, que ce soit avec les maisons de retraite ou avec les autres structures de la santé et du social du département, pour éventuellement répondre à une attente. Tout à l'heure, on parlait de professions qui ne pouvaient pas être rattachées à une seule entité. Bien évidemment, ça contribue à nous aider, nous, puisque quand on cherche un ergothérapeute pour 10 heures, c'est compliqué. Si on cherche un ergothérapeute pour 35 heures et que sa charge de travail est mutualisée entre différentes structures, pour nous, l'offre d'emploi devient, par le fait que ça soit un temps plein, plus attractive, et donc on a plus la capacité d'accompagner et de trouver des candidats pour ces structures.
Voilà, convaincre demande beaucoup d'énergie et beaucoup de temps. Je reviendrai sur un autre projet là qui est en train d'émerger après 10 ans de travail, j'allais dire pratiquement. Je voyais l'évolution et les besoins en matière de vacances pour les personnes handicapées. notamment avec l'évolution de la réglementation sur le temps de travail. Mmh. J'ai connu Saint-Alban partir avec une 10 ou 15 malades à la Grangette, qu'ils appelaient, c'est-à-dire au bord de mer, avec deux infirmiers. Maintenant, c'est inconcevable, impossible. Tant et si bien que les établissements sont obligés, notamment les établissements médico-sociaux ou personnes handicapées, sont obligés de payer des séjours de vacances pour leurs propres résidents, parce qu'ils ont besoin de sortir de leur cocon dans lequel ils sont annuellement, sinon, bien sûr, on arrive à des situations explosives. Et donc, j'ai travaillé sur ce dossier depuis une dizaine d'années, je dis bien, pour enfin convaincre et enfin trouver une association porteuse. Ça va être l'association Saint-Nicolas qui va gérer à Saint-Alban, puisqu'on a de nombreux bâtiments qui vont se libérer au niveau du centre hospitalier, qui vont gérer un centre de vacances pour handicapés, dans lequel il y aura aussi une proposition de prestations à la carte. Soit les gens arriveront... ça concernera essentiellement, bien sûr, les établissements en personnes handicapées. Ils arriveront soit avec l'équipe, soit seuls. Et donc, il y aura sur place une équipe pour les accueillir et bénéficier des prestations. Donc, le projet est plus qu'engagé, puisque les travaux sont en cours de constitution. Et je crois que c'est un créneau. Je suis sûr que c'est un créneau pour le département. Et en même temps, ça amènera aussi ces gens qui viendront d'horizons divers et de départements divers de découvrir le territoire. Et de l'apprécier sans nul doute, et de dire, bon, mais je serais peut-être mieux en Lozère que dans mon département urbanisé. Donc c'est aussi un projet qui est aujourd'hui abouti.
Voilà, on parle beaucoup du tourisme vert, mais il y a ce tourisme et handicap aussi qui est important. Pour finir, peut-être, où c'est qu'on peut retrouver ce guide du bien vieillir?
Ce guide donc a été édité à 4300 exemplaires, donc au niveau des services de la solidarité départementale, donc au niveau du Conseil général, soit au niveau du service de communication, soit au niveau du service de la solidarité départementale. On peut trouver ces brochures qui ont été aussi envoyées dans les mairies et puis bien sûr auprès des établissements lozériens.
D'accord, ben merci beaucoup.
Merci à vous.
Et on va faire une nouvelle pause musicale. Après, on vous donnera le portable d'Elodie Landbach, vu qu'il faut appeler le service communication pour récupérer ce guide du bien vieillir. Allez, Amy the Great avec Where is My Mind.
Bon, on vous abandonne.
Your head on the ground, your feet in the air. Catch this trick, you spin it, yeah. Your head will collapse, there's nothing in it. You'll ask yourself, where is my mind?
Where is my mind?
Where is my mind? Out into the water, see it swimming. Swimming in the Caribbean, animals were hiding behind the rocks. Several little fish, he told me, swears, try to talk to me. Where is my mind? Where is my mind? Where is my mind? Out into the water, see it swimming. You spin it, yeah. Your head will collapse, but there's nothing in it. You'll ask yourself, where is my mind?
Where is my mind?
Where is my mind? Where is my mind?
Where is my mind?
Where is my mind?
Where is my mind?
Where is my mind? Where is my mind? Out into the water. it swimming.
FM Le Mag.
Et voilà, nous voilà repartis pour la dernière partie de ce mag. Fred, tu as quelque chose à dire ?
Oui, c'est vrai, tu es vraiment vicieux, Ludo. J'avais la bouche pleine, je lui ai dit, continue, prends la parole, de toute façon, tu me laisses jamais en place à une. Et voilà, il profite que je suis handicapé pour pouvoir me donner la parole.
Eh ben, toi, tu pourras aller en vacances à Saint-Alban comme ça cet été. Yannick Soulier, responsable d'équipe à Pôle emploi pour une opération qui est atypique pour moi, donc peut-être pas pour vous, mais on n'a pas l'habitude de voir des opérations comme ça où il y a trois Pôle emploi de trois départements qui s'unissent pour proposer des postes 24 CDI pour l'occasion.
Oui, tout à fait. Donc en fait, c'est même au-delà du département, puisque Pôle emploi est structuré en région. Donc là, on est sur la région Auvergne et sur la région Languedoc-Roussillon pour l'agence de Mende, l'agence Lozère. Donc là, effectivement, c'est une action qu'on mène avec l'agence de Brioude, l'agence du Puy-en-Velay et également donc l'agence de Mende sur des besoins en recrutement. Alors ces besoins en recrutement sont basés sur le Puy-en-Velay, hein, puisque sur ce secteur géographique-là, il y a différentes maroquineries qui sont à la recherche de personnes qui ont, un, l'envie d'aller travailler dans ce domaine-là. Il n'y a pas de prérequis, c'est vraiment ouvert à tout le monde, puisqu'on en parlera peut-être un petit peu plus loin, mais il y a vraiment un cursus, un process de recrutement qui est à la fois sélectif, mais à la fois qualifiant. Donc on va vraiment observer à la fois la volonté, l'envie et aussi les aptitudes, les habiletés pour pouvoir occuper ce poste, donc ouvert à tous. Et l'idée de s'associer sur cette démarche, bah déjà c'est pas une nouveauté pour Pôle emploi, puisqu'on l'avait fait en 2012 sur la première vague de recrutement. C'est bien de pouvoir communiquer plus largement, je dirais, que dans les réseaux Pôle emploi, hein, c'est-à-dire communiquer par le biais de cette émission, par exemple aujourd'hui, ou les communiqués de presse qu'on peut faire régulièrement. Et je dirais, c'est un axe de communication pour Pôle emploi au niveau national, hein, puisqu'on est dans une démarche de transparence du marché. D'ailleurs, si vous allez sur le site pôle-emploi.fr, vous apercevez très rapidement qu'il y a maintenant des offres qui sont diffusées sur ce site, qui n'ont pas été déposées à Pôle emploi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des offres qui sont agrégées, qui viennent d'autres sites internet, par exemple nationaux, qui déposent leur offre, sur notre site. Donc l'idée, c'est bien celle-là, c'est la transparence du marché, c'est la transparence en termes de potentialité d'emploi, mais aussi la transparence par rapport à nos publics, parce que ben voilà, il y a bien sûr nos publics prioritaires, hein, les demandeurs d'emploi inscrits. Il y a aussi des personnes qui sont sans emploi, qui ne sont pas inscrits ou qui ne sont pas connues de différentes structures. Hein. Je parle bien sûr des autres structures du service public de l'emploi, la mission locale, Cap Emploi. Mais aussi, tout à l'heure, on a vu le docteur Bonhomme du Conseil Général pour les bénéficiaires du RSA. Toutes les personnes ne sont pas inscrites. Et de diffuser plus largement ces possibilités d'emploi nous permettent, un, de répondre positivement à l'entreprise, et deux, de pouvoir peut-être répondre à une problématique d'un individu qu'on ne recense pas dans nos fichiers.
Voilà, on change, on évolue, on ne propose plus l'emploi dans la ville du Pôle emploi. Là, on peut aller jusqu'au Puy, puisque là, pour l'occasion, c'est au Puy. C'est au Puy-en-Velay. Alors, trois maroquineries.
Voilà, trois maroquineries qui se sont associées aussi. Alors, tout à l'heure, on parlait des maisons de retraite. Est-ce que c'était, c'est sous format associatif et ça dépend du Conseil Général. Voilà, il n'y avait pas de concurrence, donc ils pouvaient faire une communication commune. Vous imaginez bien que les trois maroquineries, même si chacun est sur une niche bien spécifique, hein, on n'a pas la même entité produit, c'est plus compliqué, hein, quand on est dans le secteur privé, puisqu'il y a tout ce qui est notion de concurrence qui peut rentrer en jeu. Et là, je trouve que ces établissements ont bien joué le jeu, et Pôle emploi a bien également joué le jeu, de faire une action globale. Donc la route du cuir, en plus, voilà, c'est un titre fédérateur sur cette action. Et nous, on est vraiment très heureux de contribuer à cette action au niveau de la Lozère, puisque sur l'édition 2012, ça a déjà bénéficié à des demandeurs d'emploi qui étaient lozériens, qui ont fait la démarche, qui ont passé les étapes du process de recrutement et qui sont aujourd'hui sur le Puy, qui sont installés sur le Puy. Alors on parle Effectivement, notre département doit être attractif et doit faire venir des nouvelles populations. Voilà, je pense que si on crée une transparence aussi sur les flux migratoires qu'il peut y avoir entre les personnes sur la France entière, ben voilà, on n'est pas plus mauvais que la Haute-Loire, donc il y aura aussi forcément des gens qui viendront en Lozère. Lundi, j'étais au Massegros. On a fait une information collective sur les recrutements pour la laiterie. Il y avait 70 personnes. Sur les 70 personnes, il y avait des Aveyronnais, il y avait aussi des Lozériens. Voilà, on doit pas, je pense pas que le raisonnement, en tout cas pour Pôle emploi, ne peut pas être sclérosé aux limites départementales, en l'occurrence pour Mende, puisqu'il y a une seule agence sur le département, mais plus largement au niveau national, chaque agence a un territoire. Et heureusement que nous sommes en capacité de décloisonner ces territoires, parce que nos demandeurs d'emploi et les publics plus largement ne tiennent pas compte de ces frontières.
Un marché de l'emploi de plus en plus transparent qui effectivement correspond, on le voit bien, à la manière dont on fonctionne aujourd'hui, que ce soit avec les outils numériques, mais aussi effectivement avec la mobilité du marché qui nous est imposée. Donc le Pôle emploi qui suit cette dynamique. Alors tout à l'heure, Yannick Soulier, vous parliez de recrutement ouvert à tous. Alors, qu'on n'entende pas que tout le monde peut travailler, j'imagine, dans les maroquineries, dans le sens où il faut forcément avoir des compétences. Mais ce, je crois, que vous avez mis en place, c'est un mode de recrutement un peu plus original que le simple CV, et sur lequel vous donnez effectivement la chance à plus de personnes. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette méthode de recrutement spécifique ?
Alors, cette méthode de recrutement, alors quand je dis ouvert à tous, l'information collective, la prise de connaissance du métier, des habiletés prérequises, du salaire, du lieu de travail, etc., c'est ouvert à tous, bien entendu. Hein, donc le 18 février, 10h30, salle des associations au Foirail de Mende.
Ludo, tu peux y aller.
Voilà, vous pouvez y aller, vous pouvez tous venir. C'est de l'information. 18 février, 10h30, salle des associations au Foirail, c'est ouvert à tous, donc effectivement vous pouvez tous venir, on va vous faire une présentation à la fois du métier et du process de recrutement, pour répondre donc à la question. Le process de recrutement, oui effectivement, il va être sélectif lui. Hein, l'information collective, c'est 100 personnes. Et puis après, je dirais, les différentes étapes du process vont nous permettre de récupérer les candidats les plus à même à occuper ce poste. Donc les tests se font en plusieurs temps. Et là, on s'aperçoit bien de l'exigence des entreprises de maroquinerie sur le Puy-en-Velay, puisque le premier test psychotechnique, d'accord ? Deuxième test d'habileté. Ensuite, formation de 540 heures.
Pour les premiers, donc, qui auraient passé ces deux premières étapes ?
Voilà, tout à fait. Donc chaque étape peut être un arrêt du process de recrutement. Donc, première étape, donc les tests psychotechniques, les tests d'habileté. Ensuite, les personnes qui auront validé, je dirais, ces deux étapes pourront intégrer un cycle de formation donc de 544 heures qui se déroulera dans les maroquineries, hein, d'ailleurs. Donc, c'est l'objet d'une prestation Pôle emploi, hein, une préparation opérationnelle à l'emploi. Donc, 544 heures, 400 heures de formation, donc, sur la connaissance du cuir et les pratiques du cuir, et 144 heures, pardon, de stage dans la maroquinerie. À l'issue de ça, les personnes qui seront toujours dans ce process et qu'ils auront réussi, pardon, cette formation, embrayeront sur un contrat de professionnalisation de 6 mois, et dans ces 6 mois, il y aura encore de la formation. Et les personnes les meilleures, après ces contrats pro de 6 mois, auront un CDI, donc 24 CDI à la clé.
Voilà, parce qu'il faut préciser que c'est de la maroquinerie de luxe, c'est haute qualité.
Alors, c'est de la maroquinerie de luxe, et je dirais au-delà de ce mot qui peut être un frein des fois, c'est du savoir-faire, c'est du Made in France, quoi. Avec son savoir-faire, avec ses exigences, pardon, sur la finition, sur la qualité du produit fini.
Alors, la route du cuir porte bien son nom, effectivement, parce qu'on voit bien quand même que pour les demandeurs d'emploi, la route va être plus ou moins longue avant le CDI, mais je crois que c'est aussi aujourd'hui ces enjeux-là. Les demandeurs d'emploi jouent le jeu de cette route-là, parce qu'on demande effectivement un investissement important avant d'arriver au CDI, ce qui amène à effectivement se poser la question et de la mobilité et de l'évolution des personnes, parce que le côté ouvert à tous peut aussi se demander, est-ce qu'on est éligible à ces métiers-là ? Qu'est-ce qu'il nous faut comme habileté pour justement pouvoir être dans ces métiers ?
Alors, les habiletés, il y en a différentes, hein, on va pas les citer là. Par contre, par rapport à ce que vous dites, je pense qu'une entreprise, quand on fait un petit peu de ressources humaines ou de gestion de ressources humaines, on doit être vigilant au turnover. Parce que le turnover, c'est une perte de temps pour l'entreprise. Si c'est une perte de temps, c'est aussi une perte d'argent. Et un demandeur d'emploi, ou une personne plus largement, je pense qu'elle ne se retrouve pas quand elle change de métier tous les 15 jours. Donc là, ce process, il est certes compliqué, pour reprendre l'expression, c'est une route du recrutement, effectivement, mais on sécurise à la fois la personne dans ses choix, parce qu'à un moment donné, on peut se dire « oui, je suis fait pour ce métier », et puis on s'aperçoit très rapidement qu'on ne l'est pas. Là, le parcours va faire la personne va pouvoir apprécier les différentes étapes. Est-ce que c'est fait pour moi ? Est-ce que ça me convient ? Etc. Et de même, l'entreprise va pouvoir voir en chaque personne si c'est un potentiel collaborateur pour l'avenir. Donc on sécurise les deux. On sécurise à la fois le parcours du demandeur ou de l'individu, et on sécurise bien entendu le recrutement au niveau de la société. Donc je le verrai plus comme ça d'ailleurs.
Mais absolument. Et donc le... alors, si tout se passe bien pour nos Lozériens, effectivement, il y a des chances qu'ils partent sur le puits. Mais vous l'avez expliqué, on a des entreprises lozériennes qui jouent ce jeu-là aussi. Et donc, si on a quelques Lozériens qui partent chez nos amis du puits, on a des Aveyronnais ou des Cantaloups.
Des Ardéchois.
Voire des Ardéchois, voire des Héroletais, peut-être, certainement.
Mm-hmm. Plus rarement.
Rarement, qui peuvent arriver chez nous, effectivement, dans des entreprises comme effectivement celle du Massegros sur la laiterie, où les recrutements se font de la même manière.
Alors, le process est un petit peu identique, hormis que sur la route du cuir, les tests d'habileté sont des tests internes aux maroquineries. Ils ont monté leur propre solution, leur propre prestation pour évaluer les habiletés. Sur le Massegros, c'est nous, Pôle emploi, en partenariat avec le groupe Lactalis, qui avons monté, suite à une observation des postes, les tests d'habileté. Mais la méthode est similaire. Après, il y a une méthode qui s'appelle la méthode recrutement par simulation, qui est une marque déposée de Pôle emploi. Et je dirais, les maroquineries sur le puits se sont inspirées de cette méthode, mais bon, il y en a plein d'autres, hein. Je ne dis pas que c'est une copie de la méthode de Pôle emploi, pas du tout. Mais voilà, ils se sont inspirés de ces méthodes-là pour vraiment aller chercher l'habileté qui les intéresse par rapport à ces métiers.
En termes de recrutement et de qualité de recrutement, vous parliez tout à l'heure de effectivement la difficulté d'un turnover et donc du choix plus que stratégique, plus qu'important pour une entreprise lorsqu'il choisit de travailler avec un salarié. Ces méthodes-là ont fait leurs preuves. Est-ce qu'elles sont de plus en plus utilisées ? Comment est-ce que vous percevez ça à Pôle emploi ?
Alors, est-ce que ces méthodes ont fait leurs preuves ? Je pense que oui. Je parle notamment de la MRS, hein, de Pôle emploi, méthode de recrutement par simulation. C'est quelque chose qui existe depuis 97 pour Pôle emploi. Nous, sur le département, pour parler du département de la Lozère, on le met en œuvre régulièrement, pas que pour la laiterie et le groupe Lactalis du Massegros. On le met en œuvre pour d'autres structures. On le met aussi en œuvre pour des ouvertures de magasins, hein, puisque Pôle emploi Lozère, s'est fortement engagé dans une dynamique d'accompagnement des nouvelles structures ou des nouvelles entreprises qui se créent sur le département, notamment en lien avec les agences de développement économique, où tout ce que vous pouvez voir, les nouveaux magasins sûrement, ont été accompagnés par Pôle emploi dans leur recrutement. Je dis bien tous. 100%.
Avec cette méthode ?
Pas forcément tout le temps, ça dépend un petit peu. On peut pas mettre cette méthode pour 2-3 embauches. Par contre, on a une déclinaison locale qui nous permet de le faire à partir de 5-6 recrutements. On peut imaginer cette méthode sans aucun souci. Et on l'a fait également pour des plateformes téléphoniques de plus grande envergure sur le département.
C'est bien parce que chacun a sa chance, en fait. Ouais. Voilà.
On n'est pas obligé d'avoir un joli CV pour avoir.
Alors,
envie
ça dispense pas. Il faut quand même. Voilà, il faut quand même avoir un joli CV parce que c'est quand même l'outil essentiel ouais. pour être recruté et pour pouvoir candidater. Mais là, on lève cette frontière. Un petit peu cette barrière du CV, de la qualité du CV, et surtout, voilà, hein, il y a des opérateurs de ligne sur des chaînes de production, par exemple dans la laiterie, où il y a effectivement aussi des maroquiniers qui sont en poste aujourd'hui en CDI. Jamais personne n'aurait pu croire en leur CV. Je vous donne un exemple très concret. En 2012, quand nous avions fait la première manifestation qui s'appelait pas d'ailleurs les routes du cuir, mais qui était similaire à celle-ci, il y a une personne qui était domiciliée sur la Lozère, esthéticienne, qui est aujourd'hui maroquinière. Je pense qu'à la lecture du CV, on n'aurait pas pu identifier ces habiletés-là et cette vocation.
Effectivement. Est-ce qu'on peut penser aussi que ces méthodes-là luttent à leur manière contre les discriminations ?
Bien entendu. Bien entendu, tout le monde a sa chance, mais
on ouvre le panel du possible.
Effectivement, il y a bien à un moment donné, je dirais
une sélection,
une note, hein, si on peut employer ça. Mais ça, je dirais, ça nous permet aussi de noter des individus complètement différents et de pouvoir surtout répondre aux besoins de recrutement de la société. Donc c'est quand même beaucoup plus ouvert. Et quand on parle d'habileté, je voulais quand même donner un élément qui est important. On a des habiletés qu'on peut développer dans un contexte professionnel, mais on a aussi tout un chacun des habiletés qu'on a pu développer dans un contexte personnel. Et ça, dans l'emploi, pour mettre en valeur ces habiletés-là personnelles, c'est beaucoup plus compliqué.
Par exemple, le fait que Ludovic
fasse de la couture
avec ses chaussettes, ça peut éventuellement...
Oui, ou du canevas.
Tu vois, Ludo, c'est vraiment le 18 février, 10h.
Et demi. Salle des associations. Place du Foirail à Mende.
Un rendez-vous voilà. Pour toi.
Alors, par contre, venez nombreux, ça, il n'y a aucun souci. Je voulais juste émettre. Voilà, oui, je voulais quand même juste mettre un petit.
C'est comme pour les comptes et rencontres.
Voilà, il faut s'inscrire. Alors, nous, on n'est pas plein, contrairement à comptes et rencontres. Hein, à aujourd'hui, juste avant de partir du bureau, on était à 48 personnes inscrites.
Parce qu'on n'avait pas parlé encore de Yannick Soulier en guest star de cette journée. C'est plein parce que c'est Monsieur Boringer, mais maintenant que Yannick Soulier est passé à la radio,
ouais. Ça va se remplir.
Ouais. J'espère que les auditeurs vous écoutent.
Il croit quoi lui ? Il n'a pas d'auditeurs.
Alors, nous, voilà, afin de sécuriser un petit peu et pour le confort des personnes aussi, hein, moi, je préconise fortement à toutes les personnes qui sont intéressées pour venir entendre déjà cette présentation de poste et ce process de recrutement de s'inscrire. Alors, il y a plusieurs possibilités. Soit vous venez directement à l'agence de Pôle emploi, donc à Mende, et à l'accueil, on vous inscrira, on vous remettra une invitation. Je dis bien une invitation, hein, c'est pas une convocation. L'idée aussi de ces plans d'action et de communication, c'est de bien identifier les personnes volontaires plutôt que de faire, nous, en interne, une sélection de profils susceptibles de répondre à une offre. Et par moment, on peut se tromper également parce que ça reste une requête informatique, alors que là, on suscite plutôt l'envie et on répond aux envies des gens. Donc c'est soit vous venez à l'agence, soit vous pouvez envoyer un mail. Alors le mail je vais vous le donner. Donc c'est Katia katia.clapier clapier@pole-du6emploi.fr. Donc c'est une conseillère qui s'occupe de cette action, qui va recenser toutes les personnes. Et nous, ça nous permet un petit peu d'avoir une liste exhaustive et de sécuriser et de rendre confortable cette action.
Si normalement on est bon, et on l'est bon à 48FM, on va essayer de mettre cette adresse mail sur notre site pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de noter. On a parlé culture, on a parlé médico-social, industrie, commerce. On a quasiment fait tous les secteurs d'activité de la Lozère. Il reste le tourisme.
Voilà. Alors, ça tombe bien parce que tout à l'heure, on parlait de la santé. Vous m'avez posé la question, est-ce que la santé c'était un gros secteur d'activité et de recrutement pour Pôle emploi ? Je vous ai répondu oui, bien entendu. Et dans le même pourcentage, il y a un autre domaine qui est tout aussi important, avec des offres d'emploi très différente, mais tout aussi important en termes de collecte d'offres, pour Pôle emploi en tout cas, c'est le domaine du tourisme. Donc ça tombe plutôt bien, il y a eu des tables rondes au niveau national sur le tourisme, il y a eu des déclinaisons régionales, il y a la déclinaison incessamment sous peu locale, et Pôle emploi Mende, c'est déjà, alors je vais reprendre l'expression du docteur Bonhomme, mais on a déjà été un petit peu précurseur. Alors ça fait pas 10 ans pour nous, mais ça fait déjà, ça sera la deuxième année. Donc on est vraiment vigilant sur cette dimension-là touristique, puisque ben il y a on a quand même la chance d'avoir dans ce département de nombreux touristes. Qui dit touristes, qui dit structures pouvant les accueillir, que ça soit des campings, des restaurants ou autres, les canoës et kayaks, etc. Donc on accompagne toutes ces entreprises-là par le biais d'une autre manifestation sur laquelle on a beaucoup communiqué l'année dernière, ce sont les estivales de l'emploi. Donc les estivales de l'emploi l'année dernière, ça a été donc trois manifestations sur le département, Mende, Saint-Inimi et Saint-Chély. Alors je dis bien ça, c'était l'année dernière. Cette année, les dates et les lieux ne sont pas encore définis, mais pour autant, on est sûr qu'on va faire cette action. Elle se réalisera pour les job dating grande masse sur la première semaine d'avril, puisque les recrutements vont intervenir pour Pâques à compter du 20 avril. Et pour vous donner quelques petits chiffres, c'est quand même assez important de souligner, je dirais, le résultat de l'année dernière. Donc les estivales de l'emploi l'année dernière sur ces trois manifestations, donc je viens de citer Mende, Saint-Inimi, Saint-Chély, c'était 25 entreprises, c'était plus de 350 demandeurs d'emploi, plus de 302 mises en relation, plus de 430 offres à la diffusion et plus de 80 placements. Placements, je le remets en jargon non Pôle emploi, c'est-à-dire des personnes qui ont trouvé un emploi grâce à cette manifestation, 80. 80, pas forcément des Lozériens, prioritairement des Lozériens, bien entendu.
Ils n'étaient pas encore Lozériens, ils vont le devenir.
Voilà, ils vont le devenir. Mais voilà, et puis, donc cette manifestation, elle a vraiment une vocation. Alors, je voudrais pas paraphraser, mais il y a une autre manifestation qui est du même style, avec une envergure beaucoup plus grande au niveau national, c'est le forum d'Albertville, le forum d'emploi d'Albertville. Eh ben, cette action lozérienne, les estivales de l'emploi, s'inscrit dans la même démarche. On est notre petit Albertville sur le département de la Lozère. Alors moi, je profite de ce moment d'antenne pour rappeler aux acteurs économiques du secteur du tourisme, avec un grand T au sens large, de ne pas hésiter à prendre contact avec Pôle emploi, à nous déposer leurs offres. Alors je vais jouer la carte de la transparence. Effectivement, peut-être qu'on n'arrivera pas, et ça se voit chaque année, à satisfaire toutes les offres. Et pour autant, si à un moment donné, cette année, on va faire une grande communication, on va essayer de faire une communication à la fois parce que, comme je vous disais tout à l'heure, il y a nos publics qu'on connaît, mais il y a aussi les étudiants qui font souvent des saisons. Et on va aller toucher cette année les étudiants au travers des écoles, des universités. On va communiquer largement sur la presse et grâce également aux radios sur cette action, au-delà des frontières de notre département, voire au-delà des frontières de notre région, afin que tous les publics qui sont susceptibles de faire et d'occuper un poste saisonnier puissent avoir lecture de ces offres d'emploi. Donc on est vraiment dans la même logique que ce que je parlais au début, transparence, transparence pour les entreprises, transparence pour les demandeurs d'emploi, transparence pour les gens et les jeunes qui sont à l'université.
Et puis partenariat, j'imagine que c'est des choses que vous allez faire avec votre territoire, avec vos partenaires habituels du service public de l'emploi.
Bien sûr, on va le faire avec différents partenaires, la mission locale, Cap Emploi, la Maison de l'Emploi sur les estivales également. Donc voilà, c'est des partenaires incontournables au niveau départemental. On a la chance d'être dans un département de proximité, hein, parce que j'aime pas l'expression de ruralité, mais de proximité, où nous travaillons tous ensemble avec un seul objectif commun, c'est rendre notre département attractif aux yeux de l'externe, répondre à la problématique de recrutement et trouver de l'emploi aux différents publics. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup Yannick Soulier. Donc, c'est la première semaine d'avril, on en reparlera bien sûr d'ici là. La roue du cuir, on vous le rappelle encore une fois, c'est mardi prochain à 10h30, salle des associations, place du Foirail à Mende. Donc n'hésitez pas à y aller, à vous inscrire au préalable auprès de Pôle emploi. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Merci Fred.
Un grand merci.
Alors on va finir juste par les petits rappels avec la rediffusion ce soir à 18h10 de l'émission d'Actuel et lui. À 20h, on va rediffuser l'émission de ce samedi qui était en direct du Salon du Théâtre de Mende avec le groupe 7 et Match et les jeunes de l'association Va comme je te pousse. Donc ça, c'était ce samedi et c'est ce soir à 20h. Et bien sûr, demain soir, 20h, les doigts dans la reprise avec Fab et le programme habituel en journée. Allez, on se quitte avec un petit jingle et on se retrouvera prochainement, mardi prochain.